Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Chantal Leroux.
Bienvenue si vous nous rejoignez pour la seconde partie d'appel sur l'actualité. Comment mieux contrôler les naissances dans un pays, le Niger, qui détient le taux de fécondité le plus élevé au monde, 7 enfants par femme en moyenne, contre 1,8 enfants par femme en France et 4,4 enfants pour les femmes sur l'ensemble du continent africain. Les autorités de Niamey ont décidé de s'atteler à la démographie en luttant contre les mariages précoces et la déscolarisation des filles via un nouvel organe, l'Office nigérien de la population. Que pensez-vous de cette stratégie? Comment surmonter les obstacles culturels et religieux? Une démographie maîtrisée favorise-t-elle le développement? On lance tout de suite le débat et on part pour Niamey retrouver Abdel Wahab. Bonjour.
Bonjour Chantal.
Alors vous travaillez sur la planification familiale et la santé reproductive des jeunes en tant que consultante, donc c'est un problème que vous connaissez bien. Que pensez-vous de la création de cet ONP, ce nouvel organe, l'Office nigérien de la population ?
Oui, merci. Comme la plupart donc des Nigériens, j'ai entendu effectivement écouter le ministre de la Santé du Niger annoncer la création donc de l'ONP sous les antennes donc de RFI.
C'était hier matin.
Je voudrais dire de prime abord que bon, ça c'est une note de la communication gouvernementale. Vous savez, le problème aujourd'hui n'est pas dans la création ou la multiplication d'institutions par rapport à la maîtrise de la population. Il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises depuis longtemps. Il faut juste avoir le courage de mettre en œuvre ces mesures qui ont été déjà prises il y a beaucoup plus longtemps.
Par exemple hein.
Je parle par exemple tout simplement de la loi sur la santé de la reproduction que le ministre de la Santé sait très bien, qui a été adoptée depuis 2006, mais qui a souffert de mise en œuvre à cause des multiples décrets d'application qu'il fallait négocier pour pouvoir mettre en œuvre cette loi. Ça c'est le premier aspect. Et le second aspect, c'est qu'il y a des dispositions très importantes contenues dans cette loi qui permettrait d'aller très rapidement vers la question donc de la régularisation des naissances.
Lesquelles ?
Une des mesures, par exemple, il y a une obligation pour l'État du Niger de créer un programme national de la santé, de la reproduction et de la planification familiale.
Vous voulez dire qu'il n'existe pas de bureau du planning familial partout sur le territoire nigérien ?
Non, il y en a à travers donc au niveau donc du ministère de la Santé, plusieurs directions, plusieurs services. Mais il y a une loi qui a été créée et dans cette loi, l'obligation est faite à l'État d'aller vers la création d'un programme national de la santé, de la reproduction et de la planification familiale. Et ça permettrait effectivement de façon coordonnée justement de réguler les sens, de contrôler les sens, au lieu de vouloir créer d'autres institutions parallèles pour quel but, je ne sais pas. Je ne sais pratiquement pas.
Mais en même temps, quand le gouvernement annonce sa volonté de lutter contre les mariages précoces, il a raison, mariage précoce, ça veut dire grossesse précoce aussi.
Ça me fait rire. J'ai entendu effectivement le ministre de la Santé dire que le président a regroupé les chefs traditionnels pour aller vers, c'est-à-dire pour lutter contre le mariage précoce. Est-ce que le mariage précoce aujourd'hui se le fait uniquement des leaders, des chefs traditionnels ? C'est pas le problème de fond au Niger, c'est la lutte contre la pauvreté. Nous savons très bien aujourd'hui cette pression sociale là qui est exercée sur tous les jeunes de façon globale, que ce soit les filles ou les garçons, par rapport effectivement souvent à la prise en charge de certaines familles. Les jeunes filles qui s'adonnent tout de suite à ce mariage précoce ou bien à ce mariage à ce mariage précoce ou bien peut-être même à la prostitution de façon clandestine d'une part, qui constituent certes des causes de cette démographie galopante, mais souvent elles n'ont pas le choix. Je suis désolé. Souvent, c'est la situation de pauvreté qui les pousse à aller effectivement très rapidement vers ce mariage précoce parce que lorsque vous prenez une jeune fille, donc c'est-à-dire que vous placez en mariage, c'est-à-dire que ça fait une bouche de moins à nourrir pour le père de famille. Et aucun père de famille ne veut voir ses enfants s'adonner effectivement à cette prostitution clandestine, s'adonner à la débauche, parce que tout simplement aujourd'hui, il y a un véritable problème, c'est-à-dire de revenus économiques pour les jeunes et les adolescents, qui par ailleurs, je vous informe, contribuent à hauteur de 15% par rapport à cette démographie galopante.
Mais est-ce que ça ne veut pas dire aussi que... Est-ce que ça, oui, voilà, la solution, est-ce que c'est l'école ? Est-ce qu'il faut que tous les enfants aillent à l'école au moins jusqu'à 16 ans pour se préparer à un avenir meilleur ?
C'est pas vrai, c'est des histoires. Aujourd'hui, quelle est la finalité de l'école ? C'est ça le problème. Si l'école peut permettre effectivement à ces jeunes filles d'avoir une insertion socio-économique certaine, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun parent qui n'hésitera à mettre leurs enfants à l'école. Fût-elle des jeunes filles. Mais à quoi nous assistons ? Les jeunes filles, ils vont à l'école pour les seules qui sont effectivement, qui sont dans des familles où il y a plus ou moins, en fait, c'est-à-dire une certaine petite ouverture d'esprit. Les parents les laissent, ils vont aller jusqu'à la licence, à la maîtrise, ils vont à l'université, ils ont des très bons diplômes. Mais de l'autre côté, sur le plan purement social, elles ont toutes les difficultés pour trouver un mari pour des raisons, entre guillemets, que peut-être beaucoup de personnes ignorent. Mais je pense que la solution ne réside pas forcément à dire il faut que les jeunes filles aillent à l'école. Mais il faut que l'école serve à une véritable insertion socio-économique pour les jeunes. Si ma fille va à l'école pour avoir même un diplôme, être jusque docteur ou je ne sais pas quoi, et ne pas avoir toutes les difficultés pour avoir un mari sur le marché, mais en tant que Nigérien et musulman, je pense que le choix est très clair.
Donc ça veut dire qu'il faut aussi changer les mentalités.
Changer les mentalités en faisant quoi ? En procédant à une distribution équitable des richesses nationales.
Voilà.
C'est clair là. En procédant à une distribution équitable des richesses nationales. Aujourd'hui, à quoi nous assistons au Niger ? Il n'y a aucune autorité morale, fut-elle, qui peut convaincre les Nigériens à amener leurs enfants à l'école dans la mesure où on sait que l'enfant et l'école ne garantit rien. Au contraire, tout le monde sait que, par exemple, aujourd'hui, que tout le monde, chacun court pour aller vers la politique parce que c'est devenu effectivement un système de mangeoire très facile.
Merci Abdel Wahab. On va prendre Alassane qui nous appelle d'Agadez pour voir s'il est d'accord avec vous. Alassane, bonjour. Ouh là là, je ne vous entends quasiment pas. Je crois qu'on va essayer de vous rappeler, Alassane, parce que la liaison avec Agadez est toujours difficile. Et on va retourner au standard où nous attend Nourdine. Bonjour Nourdine.
Bonjour.
Alors vous êtes en ligne de Niamey. Vous avez entendu ce que nous disait à l'instant Abdel Wahab. Il faut une meilleure répartition des richesses nationales. C'est ça la priorité numéro un. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ?
Effectivement, Chantal, je suis d'accord avec ce que vient de dire mon confrère nigérien. Parce que la répartition des ressources pose problème. Alors que si on se réfère à la constitution du Niger, à l'article 23, on dit les parents ont le droit et le devoir d'élever, éduquer et de protéger leurs enfants. Les descendants ont le droit et le devoir d'assister et d'aider les ascendants. À l'aliéna 2, le législateur précise que l'État et les autorités collectivités, l'État et les autres collectivités publiques veillent par leur politique publique et leur action à la promotion et à l'accès à un enseignement public gratuit et de qualité. Donc là, la Constitution a parlé de protection. Aujourd'hui, nous sommes tous d'accord que la répartition des ressources n'est pas efficace et n'est pas objective. Parce que tout simplement, nos zones rurales sont en train de se déserter pour la ville parce que tout simplement, l'État n'est pas présent dans les localités reculées. Et il y va de soi que les gens descendent sur la ville. Mieux, quelqu'un qui n'a autre activité et que la culture, dans un pays où il ne peut que 3 mois sur 9, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse après ? Il n'y a aucune source de revenus. Donc ce dernier-là est obligé soit de donner son enfant très bas âge, à un mariage. Cet homme n'a pas de divertissement, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de radio, il n'y a rien. Mais le soir, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Il n'y a pas autre chose.
Alors Nourdine, est-ce que selon vous, ce record mondial du taux de fécondité a un lien quand même ou pas avec la pauvreté de la population nigérienne ? 41% des Nigériens vivent dans une extrême pauvreté. Ou est-ce que les deux n'ont pas de rapport ? Le problème fondamental, c'est l'économie et comme vous le disiez, l'absence de l'État, l'absence de développement, l'absence de répartition équitable des richesses.
Fécondité élevée, pauvreté. Il y a un petit lien. Mais si la pauvreté était conditionnée par la fécondité élevée, j'ose dire que la Chine sera la dernière puissance si on doit parler dans ce sens.
En novembre dernier,
ils sont à 1 milliard, oui. Plus de 300 millions. Donc, on n'est que 22 millions d'habitants. Moins qu'une ville de Kano, du Nigeria. Donc, c'est quelque part dire que ce n'est pas lié à la population. C'est juste la mauvaise gouvernance. C'est quoi 22 millions d'habitants ?
Nourdine, on va repartir à Agadez. On a rappelé Alassane. Alassane, est-ce que vous m'entendez ?
Je vous entends bien.
Moi, je ne suis pas sûre que j'aille bien vous entendre, mais on va tenter quand même. Alassane, que pensez-vous de la création de cet Office national de la population ? Est-ce que c'est une bonne idée ou pas ?
Oui, à priori, je pense que c'est une bonne idée, parce que ça permettra de centraliser tous les textes qui sont disparates un peu partout dans les ministères relatifs à la population, parce que c'est un vaste domaine. Par contre, je me dis que c'est difficile maintenant de faire un jugement de valeur, dès lors qu'on a mis le contenant et le contenu. On a seulement entendu l'interview du ministre qui parlait d'une composante, parce qu'il parlait juste de la scolarisation de la jeune fille. Donc ce n'est peut-être qu'une composante des textes qu'il compte mettre en application pour la population. Parce que je me dis que c'est un vaste domaine pour lequel il faut pas mal légiférer. Donc je crois qu'il y a des textes qu'il faut peut-être centraliser, que l'Office pour la population va pouvoir...
Alassane, je suis désolée, on vous entend très très difficilement. On va retourner à Niamey, d'où nous appelle Issa. Bonjour Issa.
Bonjour RFI, bonjour à tout le monde.
Mohamed Bazoum s'est fait élire l'année dernière, en 2021, en mettant en avant son combat sur la, à propos de la démographie, sur la croissance démographique. Est-ce que c'est justifié, selon vous, de s'attaquer au contrôle des naissances ?
Oui, je pense que la création de cet office, c'est une bonne idée. Mais simplement, moi, je me dis que l'office, vraiment, il doit faire un travail de pédagogie, parce qu'il y a les pesanteurs religieuses et les pesanteurs traditionnels qui sont là. Il faudra que les gens comprennent que planifier les naissances ne veut pas dire limiter les naissances. Est-ce que vous voyez ?
Alors expliquez-nous justement la différence.
Voilà, mais quand on dit planifier les naissances, ça veut dire c'est espacer les naissances. C'est peut-être une naissance chaque 3 années, chaque 4 années. Alors que si les naissances ne sont pas planifiées, ça veut dire que c'est pratiquement chaque 18 mois ou bien chaque 1 an et demi, chaque 2 ans, il y aura une naissance. Ce qui fait qu'il y aura beaucoup plus d'enfants dans la famille. Et ça fait un poids économique, parce que prendre en charge un enfant, ça coûte cher. Sa santé, son éducation, ça coûte cher. Alors que les foyers nigériens aujourd'hui, en tout cas rares, très rares même, je dirais, sont les foyers nigériens qui peuvent se permettre vraiment d'avoir beaucoup d'enfants et de les prendre en charge correctement.
Alors, la scolarisation, ou plutôt la déscolarisation des filles, le gouvernement de Niamey explique que c'est un facteur qui accentue la croissance démographique. Est-ce que la création d'internats de jeunes filles, annoncée par le gouvernement, peut aider à la scolarisation des filles ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ça peut aider, mais quand même là aussi, il faudra vraiment qu'il y ait des garde-fous, parce que je me dis qu'un parent qui est au village, il laisse sa fille partir dans une bourgade, ou bien dans une autre ville que son village, il doit se faire des soucis, il doit se poser les questions. Est-ce que ma fille est bien entretenue ? Est-ce que son éducation est bien garantie ? Tout ça là, parce que à part l'éducation scolaire, il y a l'éducation sociale qui est là. Est-ce que leur éducation sociale sera bien garantie ? Donc il faudra que les parents aient des garanties par rapport à cela. Parce que ça ne sert à rien que tu laisses ta fille quitter ton village. Elle part en ville. Et au bout de 2 ans, elle te revient avec un enfant. Vous voyez ?
Donc, il va falloir que le gouvernement, qui a promis de prendre en charge financièrement ces internats, donne aussi des garanties sur les conditions de vie des jeunes filles sur place.
Sûrement ça, oui.
Mais en même temps, est-ce que les parents vont accepter facilement de se séparer de leur fille qui aide beaucoup à la maison, qui donne parfois beaucoup plus qu'un coup de main, qui sont presque considérées comme une employée, entre guillemets, hein ?
Ça peut, mais là aussi, il faudra que le gouvernement fasse un effort, parce qu'il faudra que les mamans, parce qu'en réalité, tout l'absence de ces jeunes filles-là, c'est les mamans qui vont le ressentir, parce que la jeune fille, elle aide sa maman dans les tâches de la cuisine, dans les tâches ménagères. Donc, il faudra qu'il y ait des moulins, il y ait des activités génératrices de revenus, parce qu'il faudra que la maman ait un petit revenu. Donc il faudra toutes ces choses-là pour que vraiment les mamans acceptent.
Alors à propos des mariages précoces, en novembre dernier, les chefs traditionnels du Niger et d'autres pays de la région, réunis par le gouvernement de Niamey, se sont engagés à ne plus épouser de filles âgées de moins de 18 ans. Est-ce que c'est une étape importante vers la réduction du nombre de mariages précoces ?
Réduction du nombre de mariages précoces, oui, mais pas de grossesses précoces. Parce qu'il faudrait que là aussi, qu'il y ait un travail, parce que on empêche à la fille de se marier à 16 ans, à 17 ans, mais à 16 ans, à 17 ans, elle se retrouve avec enceinte. Mais là, il y a quoi ? Il y a quelle différence ? Oui, au lieu d'avoir un enfant légitime, elle se retrouve avec un enfant illégitime.
Donc il y a aussi...
par la société. Là, c'est aussi un autre problème.
Donc ça veut dire qu'il y a aussi un travail à faire sur la contraception. Est-ce que la contraception reste un sujet sensible au Niger ?
Ça reste un sujet sensible, mais les femmes, généralement, elles sont ouvertes, elles sont réceptives, mais... souvent, bon nombre de ces femmes, quand tu discutes avec elles, elles te disent, bon, de notre côté, il y a aussi des problèmes de santé qu'elles rencontrent quand elles prennent des contraceptifs ou bien quand elles portent des implants, tout ça là. Souvent, elles ont un problème de santé dû à la perturbation des hormones.
Et ?
Pardon ?
Ah oui, et donc, Issa, on va vous laisser pour partir pour N'Djamena, où on a réussi à joindre Bourgeois. Bourgeois, bonjour.
Bonjour Chantal, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Alors, est-ce que la démographie est un frein pour le développement ? Qu'est-ce que
non,
vous en pensez ?
Pas du tout, je vais répondre directement, pas du tout. Parce que, Chantal, je vais parler de la Chine, par exemple. La Chine, qui a une population la plus nombreuse du monde, n'est pas le dernier pays en développement. Et le Tchad, comme par exemple mon pays, qui a moins de 20 millions d'habitants, et a problème de chômage, problème de développement, de rentabilité, l'économie est en baisse. Moi, je crois que l'État du Niger doit faire mieux, faire autre chose que de créer un office pour la population. Ça ne sert à rien. Pourquoi tourner autour de la peau ? Le problème, c'est la répartition des richesses du pays. Parce que le Niger, même s'il n'a pas de pétrole, il a de l'uranium. Il faut faire mieux pour le développement de ces pays avec moins de 20 millions d'habitants. Et ils peuvent répartir la richesse et que la population peut se sentir mieux. Sinon, avoir 13 enfants, je crois que pour moi, c'est pas du tout un problème.
Et au Tchad, comment fonctionne la politique de contrôle des naissances ? Je précise qu'il y a 5,65 enfants par femme au Tchad. Hein. Donc c'est un peu moins qu'au Niger.
Voilà, mais par exemple, ma mère, elle a 8 enfants. Hein. Elle a 8 enfants, 5 garçons et 3 filles. On a jamais eu de problème dans notre famille pour nourrir toutes ces bouches-là.
Bien, merci beaucoup, Bourgeois, de nous avoir appelés. Je vais lire quelques messages qu'on a reçus sur WhatsApp. Cette stratégie ne pourra pas freiner le fléau. La création de l'ONP est une utopie pour moi, nous écrit Abdoulaye de Niamey. Pour résoudre le problème du taux élevé de natalité au Niger, il faut régler le problème du développement. Jean-Paul à Douala, la plus grosse erreur que font les pays en développement, c'est de penser que la surpopulation est une des causes du sous-développement. Il n'y a de richesse que d'hommes. Le problème majeur de nos pays, c'est l'absence de l'organisation systémique et structurelle de notre économie. Voilà, l'émission touche à sa fin. Pardon pour les problèmes de liaison. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. Demain, vous retrouverez Juan Gomez pour une émission spéciale enregistrée à Abidjan à l'occasion de la COP15. Comment lutter contre la désertification ? Voilà, vous avez rendez-vous donc demain avec Juan Gomez. Merci à Olivier Roux à la réalisation et Benoît Vandenbroek en standard.
Mastercard World Elite, la carte prestige de Banque Atlantique avec un accès à plus de 1000 salons d'aéroports Lounge Key, vous a proposé Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Priorité santé, c'est dans 10 minutes avec Caroline Paré. Bonjour Caroline.
Bonjour Chantal.
Vous nous parlez de la mémoire ce matin.
Oui, comment protéger sa mémoire, comprendre comment cette mémoire fonctionne, quelle différence avec les troubles de l'attention pour faire la part des choses entre ces problèmes de mémoire du quotidien et les signes par exemple de la maladie d'Alzheimer, hygiène de vie, prévention cardiovasculaire. Et on parlera bien sûr également du rôle de l'âge. Réponse à vos questions, c'est dans 10 minutes.
À tout à l'heure Caroline.